Question d'islam par Al Bunshir. Aujourd'hui, nous parlerons du halal, mot dont on ne sait plus à quoi il renvoie au juste, licite, permis, non interdit en tout cas, et c'est à partir de l'ouvrage de Florence Bergeau-Blaclair, Le marché halal ou l'invention d'une tradition aux éditions du Seuil. C'est cet ouvrage-là qui nous servira comme base de discussion ce matin. Florence Bergeau-Blaclair, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir.
Merci à vous.
Et de parler de votre livre. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, vous êtes anthropologue à l'IREMAM. L'IREMAM est l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman à l'Université Aix-Marseille. Et puis, vous avez voulu faire tout un travail sur le marché du halal et vous en êtes une spécialiste reconnue, pas uniquement chez nous en France, mais en Europe. Et puis vous avez suivi l'évolution de ce marché sur au moins 2 décennies, si ce n'est plus longtemps d'ailleurs. Et vous avez commencé par dire que les premiers temps, quand vous en parliez, on vous demandait même d'épeler le halal. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et parfois, on confond avec le kasher.
Oui, tout à fait. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, donc c'était au milieu des années 1990, c'était un marché qui était très peu connu et qui s'est popularisé, on peut dire, en 2012 avec les précédentes élections présidentielles et la politisation du sujet.
C'était lorsqu'on nous a fait savoir qu'on mangeait tous halal sans qu'on le sache.
Voilà, ce qui était partiellement faux ou partiellement vrai. C'est un livre que j'ai mis 20 ans à écrire, on peut dire, puisque je suis à la fois une observatrice de ce marché, mais je suis aussi son témoin historique, si on peut dire, puisque au fur et à mesure de mes recherches, finalement, le marché halal a évolué. Et quand j'ai commencé, on peut dire que ma démarche et mon intérêt pour cette consommation halal soulevaient beaucoup de scepticisme. Du scepticisme dans ma discipline, l'anthropologie, la sociologie, mais aussi auprès des religieux, des autorités religieuses, mais aussi auprès des économistes qui ne voyaient pas se profiler ce que moi je voyais. Par mes indicateurs d'anthropologue de terrain, un phénomène émergent de très grande ampleur. Et ce qui est intéressant, c'est que 20 ans après, finalement, je ne me suis pas trop trompée. Et j'ai pu, grâce à l'ISM, l'Institut des sociétés du monde musulman, et notamment Stéphane Dudoignon, enfin publier une recherche qui s'adresse à un plus grand public grâce à une grande maison d'édition qui est Le Seuil. Donc, voilà.
Ça, c'est la genèse, en quelque sorte, de l'ouvrage qui s'est étalé sur 20 ans.
Il y a eu du scepticisme, donc il y a eu pas mal de recherches qui se sont faites, de façon presque confidentielle dans les laboratoires avec des chercheurs européens. Moi, j'ai commencé par la boucherie de quartier et puis après, j'étais stagiaire au service vétérinaire et puis je suis partie visiter dans plusieurs pays européens les abattoirs et puis ça m'a amenée dans les grands salons du halal où on a à la fois les religieux et les marchands qui viennent négocier la norme. Et puis, au fur et à mesure, ce marché a pris l'ampleur que l'on connaît aujourd'hui, puisque on sait bien qu'il ne concerne plus seulement donc la viande, plus seulement l'alimentation, mais à peu près tout ce qui se commercialise dans le monde, et ça sur les 5 continents.
Alors, conformément à une phrase qui consiste à ne pas usurper les mots, à les comprendre, et que le logos est régulateur de la vie dans la cité, qu'est-ce qu'on entend, de la part de la spécialiste que vous êtes, par halal, ce terme arabe, à quoi renvoie-t-il au juste?
Alors on peut dire, mais ça vous le savez mieux que moi, sur le plan théologique, que ça veut dire licite ou permis. C'est un terme qui est employé de façon très large, qui qualifie une action et pas uniquement des objets comme c'est le cas dans l'acception marchande du terme. Le halal est devenu modifié d'une certaine manière par le marché, quelque chose qui désigne le prescrit. On a substitué à la liberté du licite la conformité du prescrit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de résistance à cette transformation, ou pas de résistance manifeste. Et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, essayer d'alerter d'une certaine manière les autorités religieuses, celles qui ont les compétences en islamologie et en théologie, sur le fonctionnement de ce marché et sa puissance à redéfinir le licite et à le réduire.
Dans certains cas, sans vouloir trop les charger, parmi ces autorités religieuses, il y a celles qui se sont engouffrées dans le marché au lieu de récupérer en quelque sorte le sens même du mot pour ne pas le laisser uniquement dans une affaire marchande. Vous parlez beaucoup, enfin en tout cas vous y consacrez quelques pages, à la fatwa, une réponse du cheikh d'Al-Azhar Mohamed Abdou, celle de 1923, qu'on appelle communément la fatwa du Transvaal.
J'en parle un peu dans cet ouvrage, mais que je renvoie donc à un article que j'ai écrit dans mon ouvrage précédent, L'essence du halal, qui était consacré justement aux enjeux autour de cette fameuse fatwa du Transvaal, promulguée par Mohamed Abdou, le réformiste. Alors pourquoi je suis allée m'intéresser, moi qui suis plutôt une anthropologue du contemporain, pourquoi est-ce que j'ai été rechercher un peu dans l'histoire? Parce que je me suis aperçue que l'espace alimentaire musulman s'était refermé et que à peu près dans les années 80-90, à la naissance du marché halal. Et donc j'ai essayé de savoir si cette fermeture était conjoncturelle ou si elle était... ou en tout cas si elle avait des racines, si on pouvait voir comment en fait s'était comporté finalement le périmètre de cet espace alimentaire. Ce qui m'intriguait particulièrement, c'était le fait que les frères musulmans, qui sont quand même un mouvement plutôt radical au sens de la racine, étaient sur la ligne du réformiste ouverte, c'est-à-dire le verset 5 de la sourate 5 du Coran, la nourriture des gens du livre est licite pour les musulmans. Je me souviens, moi, dans les années 90, quand je faisais des enquêtes à la mosquée de Bordeaux avec les frères musulmans, ils mangeaient à la cantine. Je veux dire, ils mangeaient pas de porc, mais je veux dire, ils mangeaient la viande des chrétiens.
Partant de l'idée que ce verset 5 de la sourate 5, c'est pour ça qu'on le retient facilement, il n'est pas spécifié la manière dont il faut abattre l'animal, pour peu que ce soit la nourriture des gens du livre. En l'espèce, bon, ce sont des chrétiens ou des juifs, on mange tranquillement.
Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé l'origine de ce positionnement, qui était celui aussi de Youssef Kardawi, donc un des grands
idéologues des frères.
Donc, chez les réformistes, il y a eu une bataille aux alentours, à la fin du 19e siècle, pour savoir si la viande des chrétiens, étant donné qu'ils assommaient leurs animaux, était licite. Et Mohamed Abdou a tranché, d'une certaine manière, le débat et a recueilli, disons, le consensus des Arabes, des musulmans arabes, autour de l'idée, autour du verset 5 de la sourate 5. Par contre, ce sera différent dans le continent indien, puisque là, la question de la pureté alimentaire est politique hein, depuis très longtemps. Et c'est ça, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-on revenu sur cette définition-là?
Florence Bergeau-Blaclair, je vous ai interrompu. C'est que cette fatwa de Cheikh Mohamed Abdou va être encore, en quelque sorte, consolidée ou corroborée davantage par son disciple, Rachid Rida, oui, qui dépasse le cadre uniquement de la nourriture, puisqu'il dit... puisqu'il nous est permis aussi d'épouser parmi les croyantes, on mange leur nourriture, ça laisse place, peut-être qu'il a élargi le sectarisme d'une religion à trois, mais que, en tout cas, les questions de nourriture ne doivent pas être rédhibitoires et former une frontière vis-à-vis notamment des juifs et des chrétiens.
Oui, c'est ça. Il a une vision très claire du caractère politique de l'alimentation. Alors qu'encore aujourd'hui, on la considère comme une variable culturelle sans importance. Moi, je crois que l'alimentation est politique, et en particulier dans les religions du livre. Il y a un livre très intéressant de David Freidenreich, qui est un Américain, un historien américain,
qui est rabbin,
qui est rabbin également, qui le démontre magnifiquement. Donc cet espace alimentaire, il s'est réduit lorsque arrive le marché halal. Et pour moi, le marché halal est une invention. Alors, j'utilise le terme invention que j'emprunte à l'historien, un autre historien, Eric Hobsbawm, qui parle de tradition inventée pour les différencier des coutumes. La coutume est ce sur quoi on ne s'interroge pas, alors que la tradition inventée s'impose comme obligatoire, elle se présente comme ayant un caractère obligatoire.
C'est venu comment, finalement, cette tradition inventée? Alors, à un moment donné, vous dites que les femmes, notamment les mères, y contribuent aussi.
Oui,
c'est peut-être, j'anticipe, alors, avant peut-être d'y arriver, en gros, il y a une émergence donc de ce marché. Ma question que je préparais pour vous, c'était, de fait, il va y avoir rupture dans les espaces commensaux et dans le partage, finalement, de la nourriture. Et on est reclus, du coup, de par le fait de ne pas partager la même nourriture avec les amis ou les voisins ou les collègues.
Mais si vous voulez, j'aimerais rester justement sur la naissance du marché halal.
Très bien.
Puisque l'idée justement de ce livre, c'était de montrer, de retracer en fait l'histoire, la création, l'évolution au cours des quatre dernières décennies, et de comprendre les dynamiques d'extension de ce marché. Comment on était passé de la boucherie de quartier aux salons internationaux à ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie globale islamique. Le deuxième élément que je voulais montrer, c'était comment le marché halal est finalement le produit de nos rencontres non programmées, donc ça j'insiste beaucoup sur cet élément-là dans mon livre, entre capitalisme néolibéral et fondamentalisme islamique. Une troisième chose que j'ai voulu montrer, c'est que le marché peut être dans nos sociétés sécularisées, et ça on va bien au-delà de la question musulmane, un véhicule du religieux, ce qui a bien sûr des conséquences sur notre façon d'appréhender le fait religieux dans nos sociétés de marché, dans nos sociétés industrielles. Et puis, ce que je voulais aussi faire à travers ce livre, et c'est vrai dans ma démarche depuis quelques années, c'est montrer la fécondité d'une approche normative pour compléter l'approche institutionnelle qui domine aujourd'hui dans les études sociologiques sur l'islam européen. L'enjeu aujourd'hui, c'est de montrer pourquoi, malgré la faiblesse démographique de ces populations fondamentalistes, les frères musulmans, les salafistes, qui sont quelques dizaines de milliers en France, peut-être un peu plus en Europe, pourquoi ils ont une telle influence sur l'ensemble de la population musulmane.
Et ensuite, c'est quoi? C'est un travail de culpabilisation, de prédication?
Voilà. En fait, le marché halal, pour moi, c'est la rencontre de trois dynamiques. Les dynamiques diasporiques, les dynamiques marchandes et les dynamiques religieuses, et notamment tirées par le fondamentalisme musulman. Et à la fin donc du livre, ce que j'essaie de montrer, j'essaie d'appliquer en fait ce décryptage du marché halal pour permettre au lecteur de comprendre les enjeux des différentes polémiques sur l'abattage rituel, sur la question de la cantine, sur la taxe halal pour financer le culte musulman, qui je pense est une très très mauvaise idée, le bien-être animal, etc.
Florence Bergeau-Blaclair, vous qui connaissez ces choses-là, peut-être qu'il y a même un point de droit, d'aucuns, c'est pas pour pinailler sur le vocabulaire, disent que ça ne peut pas être une taxe, mais plus une redevance parce que la taxe, il incombe plutôt au pouvoir public de la récolter, alors que là, il s'agit plus d'une contribution, d'une souscription, enfin d'une de quelque chose qu'on donnerait à ceux qui volontairement et délibérément vont acheter ou consommer halal. C'est le mot taxe qui, a priori, pose problème d'un point de vue juridique.
Oui, alors, je crois que ça, c'est une querelle de mots. On parle aussi de redevance. Vous voyez, la droite parle de taxe pour se montrer sévère. La gauche parle de redevance. Bon, ça, ce sont des querelles de mots. L'idée, c'est bien de permettre aux cultes musulmans de s'autofinancer en prélevant donc un montant sur le kilo de viande. Bon, le problème, c'est que quand on regarde justement l'histoire de ce marché, on s'aperçoit qu'il est détenu par les industries agroalimentaires ordinaires. Il n'y a pas de filières halal séparées et que des arrangements ont été passés entre cette industrie et des acteurs religieux, et on n'a pas besoin, et ces acteurs-là se sont très bien arrangés entre eux, ils n'ont pas besoin de l'État ni de personne, et donc ils refusent catégoriquement qu'on prélève de l'argent sur... D'autant qu'ils payent déjà, puisqu'ils paient déjà à des organismes de certification et de contrôle privés qui, moyennant donc, alors ça dépend en fait des accords qui sont passés. En général, ce sont des accords discrets. On ne peut pas vraiment savoir ce qui a été vendu. Moyennant donc un contrôle ou une prestation d'audit, prélève un certain de l'argent sur la viande qui peut ensuite être certifiée de halal.
Bien. Alors, je ne sais plus si je suis en retard ou en avance, mais si vous, qui êtes anthropologue plutôt de la contemporanéité, je remonterai, si vous voulez bien, à 1928, donc cette affaire de cet officier écossais et l'abattage, ou que c'est l'affaire de l'abattage selon le rite mahométan.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est j'ai essayé de rechercher à partir de quel moment on a codifié dans la législation européenne, enfin dans nationale et en Europe, un abattage rituel musulman. Et je suis remontée, peut-être qu'il s'est passé quelque chose avant, mais à ma connaissance, non, en Écosse, où effectivement, on a des discussions sur la question de l'abattage après la mise au point de techniques d'étourdissement qu'on veut rendre obligatoire pour tous les abattages, et on va se heurter donc à une opposition religieuse. Elle est d'abord rabbinique. Les rabbins donc s'opposent à ce que les animaux soient insensibilisés avant l'abattage, parce qu'ils la jugent non conforme à leur rite, et les musulmans ne disent rien. Par contre, en Écosse, on s'aperçoit que les musulmans qui travaillent sur les bateaux, ce qu'on appelle les lascars, et qui transitent entre l'Empire et la Grande-Bretagne, ne veulent pas consommer la viande qui est vendue dans les ports de Dundee en Écosse. Et donc on va faire voter une loi pour inclure dans la dérogation le rite musulman. Et il y a à l'époque des discussions entre les parlementaires. Certains disent, mais au fond, les autorités religieuses musulmanes ne demandent pas cette dérogation. Pourquoi l'appliquer aux musulmans ? Et pour des raisons bassement matérialistes, on peut dire, cette loi va être votée parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de problème avec les travailleurs qui pourront ainsi donc abattre selon leur rite sur les terres britanniques.
Alors, vous dites maintenant, je progresse avec vous, que le marché était sans norme, mais en même temps, il va y avoir une invention d'une norme. Cette fois-ci, la norme est au sens religieux, enfin une sorte de fixation ou focalisation sur une norme religieuse qui n'était pas aussi prégnante avant. Et donc, le fait de focaliser sur cette norme va donner petit à petit une norme au marché lui-même ?
Alors, la législation ne dit rien sur le mode opératoire de l'abattage rituel. Il ouvre simplement un espace dans lequel les religieux vont pouvoir définir leur rite. Ce qui se passe dans les années 80 et qui caractérise la naissance du marché halal, c'est la codification d'un abattage rituel halal industriel. Et ça, c'est les années 79-80, enfin vraiment le tournant des années 70-80. Je donne l'exemple dans mon livre de l'Iran, où l'ayatollah Khomeini, arrivé au pouvoir, interdit les viandes illicites venues des pays, enfin qu'il déclare illicites, venues des pays occidentaux. Donc il y a déjà à l'époque...
Il dit qu'il faut les donner aux animaux.
Voilà, exactement. Et il y a déjà à l'époque un commerce entre les pays musulmans et les pays occidentaux. Mais lorsque l'Iran révolutionnaire s'installe, il prend un certain nombre de mesures symboliques, comme le voile des femmes, mais aussi... une espèce de clôture identitaire par le biais de l'alimentation. Et puis, pragmatique, il s'aperçoit que cette mesure peut avoir des conséquences négatives sur l'approvisionnement et notamment des classes moyennes urbaines. Et à ce moment-là, il va avoir l'idée d'envoyer des personnels religieux dans les abattoirs des pays infidèles pour qu'ils islamisent les chaînes d'abattage industrielles qui sont organisées sur un mode tayloriste, hein, de division des tâches. Et c'est cette opération qui va donner lieu à ce qu'on va appeler après un abattage halal. Alors après, bien sûr, d'autres pays vont revendiquer leur abattage halal.
Avec des mesures d'hygiène, etc., sur lesquelles nous reviendrons, puisque pour nos amis auditeurs, je dis que nous sommes sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam, avec l'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair, chargée de recherche au CNRS, attachée aussi à l'IREMAM, qui est l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman à Aix-Marseille Université. Vous êtes la spécialiste reconnue, Florence Bergeau-Blaclair, du marché halal, de cet abattage dont nous parlons à l'instant. Et donc, j'ai lu aussi qu'il y a une inspectrice de ces abattoirs et qui déplorait l'état d'hygiène de ces abattoirs pour que cela soit conforme, et notamment à l'exportation en Iran ou ailleurs, dans des pays, puisqu'il va y avoir un mimétisme et une rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran pour pouvoir leur vendre des animaux abattus selon d'une manière halal.
C'est-à-dire que j'ai pris le cas de la Nouvelle-Zélande parce qu'il est tout à fait documenté. Lorsque les Iraniens arrivent, ils vont avoir des exigences relativement souples, c'est-à-dire qu'ils vont imposer des mesures essentiellement symboliques. Tourner la tête de l'animal vers la Mecque, il faut que ce soit un musulman qui procède à la saignée. Mais il faut savoir que tous les animaux dans les abattoirs du monde sont toujours saignés, donc il n'y a pas de changement, mis à part que c'est un musulman qui sera sur la chaîne. Et puis la formule, la prière, bismillah. Et voilà, au départ, ce sont des arrangements de cet ordre-là. Les mollahs, à un moment donné, s'inquiètent de savoir si les animaux sont réellement vivants après l'étourdissement, et vont mettre au point avec les ingénieurs néo-zélandais un système d'étourdissement non létal qui permet de garder l'animal vivant malgré son inconscience. D'autres pays importateurs, comme l'Égypte, comme l'Arabie saoudite, vont protester en disant « Nous, si c'est un chiite sur la chaîne d'abattage, la viande n'est pas licite » et vont envoyer leurs contrôleurs, etc. Et donc on va avoir...
Une sorte de surenchère comme ça.
Voilà, une sorte de surenchère, de compétition au halal qui va poser des tas de problèmes, évidemment, aux industriels des abattoirs. Et surtout, et ça c'est le rôle particulier de la Ligue islamique mondiale et de l'Arabie saoudite, va établir un lien entre la vente de viande halal et l'autorité religieuse. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite va exiger des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou l'Europe que les animaux soient certifiés, enfin que les viandes soient certifiées par des organismes de certification musulmans qui prônent une vision de l'islam compatible avec le wahhabisme. Et donc, c'est là que va se lier, en fait, de façon très concrète, dans ce que j'appelle ces organismes hybrides, que sont les agences de contrôle halal, le néolibéralisme et le néo-fondamentalisme. Et dans un deuxième temps, ce qui explique l'expansion du marché halal, c'est la mise en place d'une norme du Codex Alimentarius, norme halal du Codex Alimentarius. Alors, c'est quoi le... Alors, qu'est-ce que l'OMC est, voilà. C'est la FAO et l'OMS qui ont créé donc cet organisme de normalisation alimentaire qui va permettre de faire circuler des aliments dans le monde qui soient sains, non problématiques pour l'environnement ou pas trop problématiques en tout cas. Et assez curieusement, les Malaisiens, qui est un petit pays qui va se servir de l'islam, qui va halaliser finalement son économie pour se développer, va faire passer au niveau du Codex Alimentarius des directives halal, dans lesquelles il définit le halal au plan sur le plan de l'abattage, mais aussi un halal qui fait ressortir la composante de la pureté. C'est-à-dire que aucun produit ne peut plus être étiqueté ou certifié halal s'il contient ou même s'il a été contaminé par des substances dites illicites. Et ces substances dites illicites sont très peu nombreuses. C'est l'alcool, le porc, les viandes non rituelles. Mais à l'échelon microscopique, on peut dire, elles sont partout, ces substances-là, dans les additifs, dans les épaississants, etc. Donc ça fait que tout ce qui est consommé, tout ce qui est incorporé, va devenir potentiellement illicite. Et ce qui est potentiellement illicite permet d'ouvrir un espace pour le marché halal, pour le marché licite.
Et au niveau international, vous avancez le chiffre de 1300 milliards de dollars.
C'est ça. Aujourd'hui, ce sont des chiffres publiés par les Émirats arabes unis qui ont payé la firme Thomson Reuters pour les diffuser, enfin pour les calculer et les diffuser. Ça correspond en fait à un monde virtuel, hein, qui n'existe pas encore, dans lequel tous les musulmans du monde se mettraient à manger halal, s'habiller en halal, se maquiller halal, aller dans des vacances, dans des hôtels halal, etc.
On a halalisé en quelque sorte même les loisirs.
Donc si vous voulez, ça ne correspond pas à grand-chose. Par contre, c'est un chiffre qui tourne en boucle et qui est très facilement accepté dans nos médias, qui ont, par rapport à ça, aucun esprit critique. Il y a une facilité, en fait, à accepter cette idée d'un monde halal qui est assez déconcertante.
Alors, je reviens peut-être à ma question de tout à l'heure, sauf si ce n'est pas encore son moment, comment ça se fait que dans les familles, petit à petit, on se convertit, en quelque sorte, à cette nourriture halal, même si les familles n'étaient pas, au départ, de stricte observance. Et ce sont davantage les mères qui ne le voulaient pas pour leurs enfants.
Alors, justement, moi, je distingue trois étapes de la demande halal qui répond à cette offre de marché. Au départ, on peut dire que c'est le paradigme des gens du livre qui s'impose à peu près jusqu'aux années 80. Donc là, la frontière rituelle, c'est le porc, c'est le cochon. Donc on ne mange pas de porc. Pour les moins stricts, on pousse le petit morceau de lardon dans l'assiette. Mais voilà, enfin, on n'en fait pas tout un plat. Ça reste quelque chose de personnel, de privé. Ça, c'est jusque aux années 1980. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fréquente les boucheries juives. C'est assez courant. On n'a pas de problème avec ça. On y va parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de cochon. Dans les années 80, l'immigration change de profil, comme vous le savez. Les femmes vont arriver plus nombreuses et les femmes, elles apportent avec elles la cuisine. Et ça va changer beaucoup de choses puisque les femmes vont être très attentives à la pureté de la nourriture parce que le sang contient ou peut produire... Enfin, il y a tout un imaginaire magique, en fait, autour de l'impureté de la viande qui va... qui va les amener à faire plus attention au choix de la nourriture et aussi pour des raisons culinaires, simplement parce que l'offre du marché halal va s'adapter à cette demande particulière qui est une demande de viande d'animaux plutôt jeunes, plutôt pas chère et surtout une viande ce qu'on appelle une viande chaude dans les abattoirs, c'est-à-dire que on va acheter la viande sitôt qu'elle a été abattue, on la vend dans les 3 jours. Alors il y a un délai réglementaire, je crois que c'est 2-3 jours, mais au bout de 3 jours on peut l'emporter. Et au lieu de faire comme les boucheries traditionnelles en France qui laissent maturer la viande 15 jours, voire 3 semaines, voire un mois, là on va consommer la viande, une viande claire, très, très vite. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est assez rapidement dans mes enquêtes, je me suis aperçue que les familles musulmanes prétendaient qu'ils étaient capables, les femmes musulmanes, certaines, étaient capables de reconnaître une viande halal parce qu'elle avait un aspect clair. Donc, ce qui montrait une très bonne exsanguination. Et quand on regarde un peu d'où viennent ces bêtes, comment elles ont été traitées et abattues, on s'aperçoit que ce sont plutôt des animaux jeunes, qu'il n'y a pas eu de maturation, donc la viande est restée claire. Mais l'abattage, l'exsanguination n'est absolument pour rien dans la couleur de la viande. Toutes les bêtes dans les abattoirs sont exsanguinées de la même façon, en rituel ou en non-rituel. Donc ça c'est la deuxième période et va être transmis aux enfants non seulement le tabou du porc mais aussi l'attention à ces viandes qui ne sont pas les viandes pour les musulmans, le marché aidant, l'offre aidant, tout ça va s'installer comme étant parfaitement naturel au point qu'aujourd'hui les moins de 30 ans n'ont pas idée qu'on puisse, dans les années 90, ne pas faire attention au caractère halal ou non de la viande.
Oui, et on passe du contrôle, en quelque sorte, du caractère licite, permis, halal de la viande, au contrôle des âmes, finalement. Parce que celui qui ose transgresser cet interdit, de fait, il se met en dehors de la communauté.
Alors, il se met en dehors de la communauté diasporique, on peut dire. C'est-à-dire que, au départ, c'est plutôt du contrôle social. Toutes les populations qui migrent en groupe et se retrouvent dans un autre espace a tendance à se protéger. Et pour cela, il utilise 2 moyens. C'est le contrôle des filles et le contrôle de la nourriture. Le contrôle des filles, ça, c'est assez bien documenté. Le contrôle de la nourriture, on en parle moins. Mais c'est très important aussi pour protéger les frontières du groupe.
La sortie de ce qui s'apparente à une véritable crise, selon vous et à l'observatrice que vous êtes, c'est passager, c'est un passage obligé, c'est éphémère, ou ça va pousser à d'autres crispations, parce que in fine, on en fait tout un plat sur quelque chose qui ne l'était pas encore une fois il y a 2 décennies ou 3.
Oui, parce qu'à ce moment-là, et notamment par le biais de ces organismes hybrides, les agences de contrôle et de certification, qui sont à la fois dans le champ économique et à la fois dans le champ religieux, dans des champs compétitifs différents, vont produire un discours à destination des jeunes qui ont intégré cette barrière alimentaire. Et donc ce sont les dynamiques fondamentalistes qui vont se reposer, si vous voulez, sur les dynamiques de clôture de la diaspora. Et ça va marcher, ça va très très bien marcher, au point que dans les années 2000, on va trouver sur le marché des petits pots de bébé halal. Et donc là, aujourd'hui, on voit arriver à l'âge adulte des enfants qui ont été nourris aux petits pots de bébé halal, c'est-à-dire vraiment avec l'idée qu'il y a une nourriture propre, une nourriture séparée pour les musulmans.
Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la Malaisie, cette notion-là va s'étendre à tout, y compris maintenant aux produits cosmétiques, etc.
Oui, c'est ça. Et moi, je me souviens, au début des années 2000, tout le monde rigolait quand je disais des cosmétiques halal, les gens rigolaient. Maintenant, dans les années 2010, ils rigolaient moins. Quand je parlais de l'eau halal qui nous vient de Malaisie, c'est-à-dire une eau embouteillée dans un environnement qui n'est pas indemne d'impureté, tout le monde rigolait et maintenant ça arrive en Espagne. Donc C'est assez stupéfiant, la capacité en fait d'adaptation à ces nouveaux, à ces nouveaux produits halal.
Et encore une fois, parce que c'est le marché qui régule et qui, de fait, l'impose, ou c'est qu'on a toujours plus radical que soi et on a peur de périr par le feu de l'enfer si une petite impureté est distillée comme ça dans la nourriture.
Alors, il n'y a pas seulement de la contrainte, il y a aussi de l'adhésion. Il y a effectivement, il peut y avoir des craintes, surtout pour la viande et les produits carnés, mais il y a aussi un phénomène d'adhésion et l'idée, par exemple, que quand on mange halal, une étude récente l'a montré, être considéré comme un des piliers de l'islam, ce qui est quand même assez étonnant, et bien quand on mange halal, on sera récompensé dans l'au-delà. Donc on accumule, si vous voulez, des hasanats. Donc donc il n'y a pas que de la contrainte, il y a bien aussi des phénomènes d'adhésion et puis après de l'entre-soi. Et puis, comme je le disais, il y a un discours qui est distillé par ces trois organismes, c'est-à-dire l'agence marketing islamique, l'agence de contrôle et, une petite nouvelle dernière, l'association des consommateurs musulmans. Les consommateurs musulmans ayant des besoins spécifiques, d'après le marché, il faudrait donc les défendre de façon spécifique. Et donc ces associations de consommateurs musulmans, elles vont aider à l'ajustement de l'offre et de la demande. Montrer aux musulmans qu'ils ne connaissent pas leur religion, qu'ils sont dans l'incapacité de contrôler toute cette industrie dont on ne sait pas trop ce qu'elle fabrique. Et donc c'est ce discours culpabilisateur qui effectivement va contraindre les âmes, si on peut dire, mais il y a aussi un discours d'adhésion en disant, mais au fond, grâce au halal, ça c'est plutôt les frères d'ailleurs qui vont développer ça, on va peut-être pouvoir repenser notre rapport à la nature, notre rapport à l'environnement, notre rapport à l'animal, peut-être manger moins de viande, etc. Et ça devient, si vous voulez, une nouvelle écologie du halal.
Oui, et à ce sujet, je reviendrai au débat sur l'électronarcose. Ce sont internes au monde islamique, puisqu'il y a ceux qui disent « bon, c'est pas bien grave », et même Moïse a été foudroyé, mais on n'a pas été mort pour autant, il a perdu conscience. Et ce qui vaut pour un homme, de surcroît un prophète, peut valoir aussi pour un animal, et d'autres qui trouvent à redire à propos de l'électronarcose.
Oui, parce que l'électronarcose, en fait, fait partie du débat sur la spécification de la norme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette norme qui n'existait pas, c'est un peu la course à l'échalote. Elle ne fait que se différencier, chercher à se différencier du conventionnel. Mais en même temps, elle est prise dans des contraintes industrielles. C'est-à-dire que pour les industriels, pour produire du halal et que ce soit rentable, il ne faut pas que ça soit trop différent. Donc c'est toujours ça. C'est pas trop différent, mais quand même assez différent pour que ce soit spécifique. Donc la question de l'électronarcose, elle est prise dans ces enjeux-là. Quand j'ai commencé dans les années 90, d'ailleurs, les premiers abattoirs que j'ai pu observer, on utilisait l'électronarcose. L'abatteur musulman utilisait l'électronarcose sans problème. Et puis, on a commencé à entendre un discours en disant « mais l'électronarcose, c'est pas naturel, c'est pas halal. Il faut que l'animal soit vivant. » Et aujourd'hui, les années 2010, c'est « il faut qu'il soit vivant, mais en plus, il faut... » Alors, la réaction à « il faut qu'il soit vivant », l'industrie a proposé une électronarcose post-saignée. C'est-à-dire que l'animal est saigné et juste après, on va l'étourdir. Et là encore, un autre message est arrivé pour dire « non, il faut que l'animal soit vivant et conscient ». Donc, l'électronarcose post-saignée n'est plus valable. Et voilà, et c'est comme ça qu'on demande chaque fois quelque chose de plus strict pour éviter que l'industrie absorbe en fait la norme.
Entendu, mais de ce point de vue, comment trouve-t-on les arguments pour continuer à parler, puisque nous entendons les uns et les autres par-ci, par-là, qu'il y a tout un discours sur le bien-être de l'animal, qu'il ne souffre pas, que la meilleure façon d'abattre l'animal, effectivement, c'est d'avoir des couteaux très affûtés, très acérés, et avoir cette dextérité pour pouvoir l'immoler ou l'abattre. Ça tient, ça, ce discours? Il est recevable?
Moi, je ne suis pas une spécialiste, mais tous les vétérinaires avec qui j'ai travaillé, c'est aussi la position de la Fédération des vétérinaires européens. Ils sont assez formels. L'abattage rituel industriel, dans des conditions identiques à l'abattage conventionnel, est plus douloureux à partir du moment où on n'étourdit pas l'animal. Donc ça, c'est attesté. Il y a eu des études faites sur les animaux. Mais là, on est du côté des religieux, on est clairement dans le déni. Des religieux, que ce soit des rabbins comme des imams, ça ne change pas. On est dans le déni.
Et pourtant, je reviens à mon argument de Moïse foudroyé. C'était, encore une fois, on est en train de faire de l'exégèse sauvage, bien entendu, parce qu'on choisit hors contexte, avec une lecture par fragments, comme on dit, dans le Coran pour étayer tel ou tel argument. Ça a pu prendre un moment. Et pourquoi en étant revenu parce que tout simplement, de leur point de vue, il faudrait que l'animal soit conscient. Et en quoi, s'il n'était pas conscient, la viande n'est plus pure?
Je ne pourrais pas répondre à cette question, en fait.
C'est tout simplement.
Parce qu'on irait dans le domaine exégétique où je ne vais pas précisément. Ce que j'essaie d'expliquer, moi, ce sont plutôt les dynamiques de marché et les réponses avec les dynamiques religieuses et puis cet intérêt qu'il y a à faire de l'abattage rituel halal un mode opératoire spécifique. Donc, si on accepte l'étourdissement, il y a tout simplement aucune différence entre l'abattage conventionnel et l'abattage halal. Donc, ça ruine les fondements du marché halal.
Alors, je reprends, j'essaie de comprendre à mon niveau, c'est que l'invention du consommateur musulman, il faut bien peut-être le sanctuariser en quelque sorte, il ne faut pas qu'il soit absorbé, et là, il faut ériger des digues pour que il y ait une spécificité à son alimentation, et a fortiori pour les plats carnés, donc pour l'abattage des animaux, et partant pour les autres produits. Oui. L'idée est celle-là, et le marché s'y adapte.
Il fait plus que s'y adapter, il pousse dans ce sens-là, puisqu'il crée une nouvelle niche de profitable, bien sûr.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'anthropologue Florence Bergeot de la Claire. Aujourd'hui, nous parlons du marché du halal et Florence Bergeot de la Claire est aussi chargée de recherche au CNRS et elle est à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman à Aix-Marseille Université. Chère Florence Bergeot-Blaclair, vous êtes une spécialiste reconnue de toutes ces questions liées et inhérentes au marché du halal et nous poursuivons ensemble donc cet entretien. Il va y avoir par la suite des controverses qui vont naître autour de ce marché, tant au niveau politique qu'au niveau intra-islamique. Alors, au niveau politique, nous voyons bien comment les choses se font. Et puis, à un moment donné, il va y avoir ce que, pour certains, était un scandale à propos du 100% halal chez Kitchen Quick ou quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, Quick. Effectivement, il y a eu l'affaire Quick. On va remplacer tous les produits jugés halal, c'est-à-dire le bacon et puis la viande non rituelle, par une viande halal, et donc on fera du faux bacon dans les hamburgers, ce qui va créer une polémique qui est, à mon avis, elle est justifiée et puis c'est un bon signe. Quand on commence à introduire des frontières alimentaires au nom de la religion, c'est vrai que c'est normal que dans une société laïque où on fait en sorte que les religions et les non-religieux puissent cohabiter, on s'interroge. Malheureusement, c'est un débat qui a été immédiatement préempté par le Front National et l'extrême droite qui est très hostile à l'islam, et puis les autres, ceux d'en face, qui au contraire défendent les musulmans et la culture halal, qui en réalité n'est pas une culture. Et c'est ça aussi que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est qu'ils se trompaient dans les termes du débat.
Oui. Et du coup, le marché halal en France, pour rester uniquement au niveau de votre champ de compétences, qui est très large, je ne rentre pas dans les considérations exégétiques, quelles sont un peu ces données? Vous avez des idées? Quelles sont les grandes enseignes, si je puis dire, ou les grandes entreprises derrière? Et puis il y a les trois grandes mosquées qui se sont partagées, en tout cas au moins, une sorte de convention avec les pouvoirs publics et tout particulièrement le ministère de l'Agriculture.
Alors, à l'origine, il y a l'idée assez curieuse de Charles Pasqua en 1992 de mettre en place une sorte de cache-route halal qui permettrait donc à la mosquée de Paris d'asseoir son pouvoir religieux, économique sur la communauté musulmane de France. C'est une époque où il y a eu des attentats, etc. Donc, chaque fois qu'il y a des attentats, on pense au marché halal, une possibilité pour le marché halal de financer le culte musulman avec de l'argent domestique, si vous voulez. Évidemment, ça n'a pas fonctionné parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, les marchands se sont déjà arrangés avec des associations musulmanes qui certifient leurs produits, ou même des musulmans, tout simplement. Il suffit de, parfois, dans certains cas, d'embaucher un musulman pieux et puis la viande sera halal. Donc, en 1992, cette opération échoue, mais il va rester donc cet agrément accordé à la mosquée de Paris pour l'habilitation des sacrificateurs, et qui sera ensuite élargi à la mosquée d'Évry et à la mosquée de Lyon. Donc, ça ne leur donne le droit que de nommer des sacrificateurs pour entrer dans les abattoirs et absolument rien d'autre. Ça ne leur donne absolument aucune légitimité ou quoi que ce soit pour certifier des produits halal. Mais bien sûr, cet agrément ministériel va leur permettre de prétendre à une légitimité pour la certification, et elles vont chacune créer leur organisme de certification. Certaines vont le faire sur le mode de l'audit, c'est-à-dire que on envoie une équipe qui regarde si les conditions d'abattage sont correctes, ou de stockage sont correctes. Et à ce moment-là, on va accorder une certification de telle mosquée. Et puis, il y a le modèle plutôt de l'agence de certification de contrôle, où, en plus de l'audit, on va envoyer un personnel qui va s'assurer tout au long de la procédure que tout se passe bien. Voilà. Et ces trois mosquées qui ont maintenant leurs agences de certification vont se partager avec une autre association qui est très connue en France, qui s'appelle AVS, à votre service, et d'autres un petit peu moins connues vont se partager, disons, l'essentiel du marché de la certification halal en France.
Alors, vous rapportez les résultats d'un sondage où on y voit que le consommateur musulman fait davantage confiance à la boucherie qu'aux associations.
Oui, c'est une enquête qu'on a réalisée en 2005. Je ne suis pas sûre, on est en train d'en lancer une autre en ce moment, je ne suis pas sûre qu'on aura aujourd'hui les mêmes résultats.
On ferait dans ce cas davantage confiance à ces agences ou aux associations que la boucherie de proximité?
Oui, parce que la méfiance générale vis-à-vis des produits halal a augmenté. Et donc aujourd'hui, on cherche un organisme tiers hein, pour, pour valider le processus qu'on sait compliqué, complexe. C'était peut-être moins le cas en 2005.
Et ça va de pair, le fait de sensibiliser les consommateurs à manger donc halal, et en même temps une sorte de mission au sens d'évangélisation, donc au sens de prosélytisme. C'est simplement pour, puisque nous arrivons au terme de notre entretien, de voir qu'il y a un état d'esprit particulier tout de même à vouloir coûte que coûte se nourrir de cette viande et de cette alimentation halal.
Oui, c'est assez préoccupant. Il y a des formes de pression communautaire et un discours qui s'appuie sur parfois des espèces d'histoires, ce qu'on peut appeler des légendes urbaines autour. Bon, par exemple, vous avez entendu la question, le Coca-Cola serait illicite parce que non seulement il contiendrait peut-être un peu d'alcool, mais en plus, ou d'éthanol, je ne sais plus. Mais en plus, quand on regarde Coca-Cola dans un miroir, on voit, je crois que c'est la Mohamed, la Mecca, quelque chose comme ça. Et donc, on ne peut pas... Voilà, donc il y a derrière Coca-Cola un grand Manitou qui voudrait, d'une certaine manière, porter atteinte aux musulmans. C'est un discours qu'on va retrouver en Turquie aussi. Il y a une association, une grande association de certification halal qui s'appelle GIMDES, qui produit comme ça un discours presque conspirationniste contre les musulmans. Et donc ça, ce sont des phénomènes. Alors je ne dis pas que tous les musulmans y sont sensibles, mais enfin, ça travaille un peu la population. Et dans le climat où on est, où on politise l'islam, où on marchandise l'islam, c'est vrai
d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs.
Voilà, absolument, d'un côté comme de l'autre.
Alors, un mot peut-être sur comment retrouver la sérénité et la tranquillité, aussi bien dans les cantines d'entreprise que dans les écoles.
Je crois qu'il faut que toute la classe politique, les autorités religieuses, les gens en général, prennent conscience que l'espace alimentaire, c'est quelque chose qui est politique et qui est aussi variable. C'est-à-dire qu'on peut desserrer la contrainte halal. Et pour la desserrer, effectivement, il faut cesser de la fixer comme le font les politiques. En disant, voilà, l'abattage rituel, c'est ça, 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 et pas autre chose. Ça ne va pas. Il faut que les autorités religieuses se saisissent du problème. Quand je parle des autorités religieuses, c'est pas forcément les gestionnaires de l'islam. C'est comme le CFCM, qui est plutôt un gestionnaire de l'islam, mais qui a, sur ces questions-là, absolument rien produit d'intéressant et d'éclairant. Donc je crois qu'il faut...
Au contraire, président puisque, a signé une charte...
Voilà, qui est tout à fait régressive. Donc là, il y a une prise de conscience de la part peut-être des autorités religieuses. J'avoue que moi, depuis 10 ans, je n'ai jamais pu m'entretenir avec, peut-être à part l'imam Boubrou, qui en a parlé et qui a une position quand même beaucoup plus nuancée que les autres. Mais sinon, il est très difficile aujourd'hui de trouver une autre position que celle qui est imposée d'une certaine manière par le marché, parce qu'il y a très peu de compréhension des arcanes de ce marché. C'était aussi un objectif de ce livre.
Bien, merci beaucoup Florence Bergeau-Blaclair. Peut-être qu'il faudrait revenir éventuellement à la fatwa de Mohamed Abdou et en avoir une de nos jours pour déculpabiliser les consciences des consommateurs musulmans et musulmanes. Nous étions dans l'émission Questions d'Islam sur France Culture avec Florence Bergeau-Blaclair, qui a écrit un ouvrage très documenté, très intéressant et éclairant, Le marché halal ou l'invention d'une tradition aux éditions du Seuil. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Emmanuel Armin. Et la réalisation est toujours assumée avec brio par l'ami Franck Lilin.